Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, la pharmacogénétique, voilà un terme barbare et pourtant porteur d'espoir. Née à la fin des années 50, la pharmacogénétique permet de prescrire des traitements sur mesure en fonction des profils génétiques des patients. Car les médicaments, même lorsqu'ils sont prescrits selon les règles, sont cause de morbidité, voire même de mortalité. Dans une interview accordée au Nouvel Observateur en décembre 2006, le professeur Patrice Queneau, membre de l'Académie nationale de médecine, affirmait qu'en France, les médicaments tuaient plus que les accidents de la route. Une comparaison choc où il ne s'agit pas de rejeter la pierre sur les médecins, les laboratoires ou encore les patients. Pourtant, le professeur Queneau estimait entre 10 000 et 30 000 le nombre de décès de patients français par an. Parmi les raisons, la prise de traitement de manière aléatoire et également une incompatibilité génétique avec le traitement prescrit. Pour éviter le plus possible ces antagonismes entre patients et médicaments, la pharmacogénétique a donc fait son apparition et pour en parler plus en détail avec nous, deux invités nous ont rejoints en studio, docteur Jean-Pierre Goulet. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes praticien hospitalier au laboratoire de pharmacocinétique et de toxicologie et de biologie au Havre. Vous êtes également donc membre de l'Académie de pharmacie et correspondant à l'Académie nationale de médecine. Et puis Jean-Paul Tillemant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de pharmacologie à la faculté de médecine de Créteil, c'est Paris 12, membre de l'Académie de pharmacie et membre de l'Académie nationale de médecine et puis également professeur adjoint à l'Université de Georgetown. Alors, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Canal Académie, au Palais de l'Institut. Avec vous, nous allons pouvoir identifier les maladies à traiter par le biais de la pharmacogénétique, les outils, l'organisation. Mais tout d'abord, un point important sur lequel vous insistiez en préparant cette émission, c'est une définition simple et claire de la pharmacogénétique et de la pharmacogénomique. Mais tout d'abord, Jean-Paul Tillemant, qu'est-ce que l'on appelle la pharmacogénétique ?
Alors, pour vous parler de pharmacogénétique, je voudrais d'abord vous rappeler une question ancienne et récurrente qui se pose très souvent, c'est la variabilité inter-individuelle de réponse aux médicaments. La question est la suivante. La même dose d'un même médicament à des personnes différentes est généralement efficace, parfois inefficace, parfois efficace et toxique, parfois source d'effets indésirables. Autrement dit, il y a une grande variabilité dans la réponse aux médicaments et la pharmacogénétique tente d'expliquer ces variations par des paramètres personnels, des paramètres génétiques de l'individu. Ces paramètres génétiques sont généralement le fait de caractéristiques des protéines de l'organisme, que ce soit des protéines enzymatiques qui transforment les médicaments ou des protéines réceptrices, c'est-à-dire qui transmettent le message du médicament à l'organisme par un effet.
Alors c'est une connaissance que l'on a depuis très récemment, la pharmacogénétique.
On s'en doutait depuis longtemps, mais à mon avis, la véritable naissance de la pharmacogénétique est née avec le traitement antituberculeux et avec l'utilisation d'un produit qui s'appelle l'isoniazide, qui est commercialisé sous le nom de Rimifon, et qui est un antituberculeux majeur. Donc, indispensable pour un traitement efficace de la tuberculose. On avait défini des doses qui étaient des doses qui marchaient à peu près chez tous les individus jusqu'au moment où, en étudiant un grand nombre de patients, on s'est rendu compte que ces doses étaient inefficaces chez certains patients et que chez d'autres patients, elles étaient efficaces mais toxiques, avec une toxicité grave qui pouvait être une toxicité neurologique ou une toxicité digestive. Voilà. Alors, l'idée était de savoir pourquoi ça marchait mieux chez certains individus et chez d'autres ça posait des problèmes. Et on a mis en évidence le fait que ce qui variait entre les patients, c'était la vitesse de dégradation de ce médicament dans l'organisme. Quand la vitesse est grande, la dose habituelle est inefficace. Quand la vitesse est faible, la dose habituelle est normale, active, mais la répétition de cette dose va provoquer des accidents toxiques. Et on a pu définir très très rapidement que la réaction de dégradation est une réaction d'acétylation, donc deux types d'acétyleurs, des acétyleurs lents pour lesquels il va falloir espacer les administrations de médicaments, des acétyleurs rapides pour lesquels il va falloir rapprocher la séquence des administrations. Acétyleurs rapides, acétyleurs lents, c'est à mon avis la naissance de la pharmacogénétique. Je voudrais ajouter une chose, ce qui était tout à fait intéressant dans le cas du Rémifon, c'est que c'est un produit qui, en surdosage, est toxique. Et je pense qu'il faut absolument ne pas perdre de vue que la pharmacogénétique s'adresse surtout à des médicaments pour lesquels la marge de sécurité entre l'activité et la toxicité est étroite, ce que nous appelons, nous, un index thérapeutique. Et pour être tout à fait complet, entre acétyleurs rapides et lents, la différence de demi-vie, c'est-à-dire de temps de présence dans l'organisme, est dans un rapport de 3, et le rapport entre la dose active et la dose toxique est aussi un rapport de 3. Donc on comprend bien que la toxicité se développe si on donne la même dose à tout le monde.
Alors nous reviendrons plus en détail sur le type de population qui est concernée, hein, selon l'assimilation en fait, hein, plus ou moins rapide des médicaments. Auparavant, avec vous Jean-Pierre Goulet, est-ce que vous avez des chiffres justement peut-être qui pourraient étayer ce besoin de pharmacogénétique?
Oui, alors vous m'interrogiez sur l'iatrogénie médicamenteuse en particulier. L'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire et de produits de santé, a dénombré en 2001 128 000 hospitalisations liées à ces accidents d'iatrogénie médicamenteuse pour un coût de 300 millions d'euros. On ne dispose pas de chiffres très détaillés sur la nature de ces accidents d'origine médicamenteuse. Ceci dit, on a les chiffres qui concernent les anticoagulants, puisqu'à l'heure actuelle, on sait qu'environ 500 000 patients sont traités par les anticoagulants anti-vitamine K, qui sont très utilisés, et que parmi ces 500 000 patients traités, on dénombre 17 000 hospitalisations liées à ces accidents thérapeutiques, ce qui représente environ 15% du total. On enregistre également, on dénombre 3000 décès chaque année à peu près.
3000 décès, c'est très important.
Voilà. Ceci dit, il est très difficile d'établir le lien de causalité. C'est pas forcément la responsabilité du médicament. Ça peut être aussi une mauvaise observance thérapeutique. Les facteurs sont multiples et nombreux. Il apparaît clairement qu'il est utile de pouvoir mettre en évidence clairement la famille à laquelle le malade appartient au plan de la pharmacogénétique.
Alors, on est bien d'accord, on parle de génétique. Alors, 99% du génome est commun à tous les humains. Alors, c'est cette fraction qui reste qui va jouer sur l'assimilation ou pas d'un médicament, Jean-Pierre Goulet?
Oui, il va falloir rechercher une efficacité maximale dans le traitement médicamenteux, justement, par ces différences qui existent entre les individus, qui jouent sur une petite partie du génome, pour rechercher l'efficacité maximale de ce traitement médicamenteux.
Alors, on peut établir, par exemple, plusieurs colonnes dans lesquelles on pourrait ranger les populations?
Effectivement, on peut établir des sortes de colonnes dans lesquelles on peut ranger les populations et ainsi prévoir quelles vont être les doses qui devront être administrées pour un médicament donné en fonction du fait que le sujet va l'éliminer rapidement ou au contraire va l'éliminer très lentement.
C'est ce que disait donc votre collègue, Monsieur Tillemont.
Mais si vous voulez, je voudrais ajouter une chose, c'est que classer les gens en colonnes, c'est très bien, mais il faut savoir que les gens peuvent changer de colonne.
Ah! Mais comment, pourtant, c'est écrit dans notre génome?
C'est écrit dans notre génome, c'est vrai. Notre génome, donc, produit des protéines qui sont des protéines enzymatiques, par exemple, pour le métabolisme des médicaments. Mais je dirais en raccourci que la nature n'avait pas prévu le médicament. Je veux dire par là que les enzymes ne sont pas spécifiques des médicaments, mais spécifiques ont peu de spécificité et qu'en tout cas, pratiquement toutes les protéines que l'on appelle, enfin toutes les substances qu'on appelle exogènes, sont peu ou prou susceptibles d'être transformées par ces enzymes. Alors vous voyez tout de suite une première interférence possible, qui est l'interférence environnementale. Il y a des aliments qui peuvent entrer en compétition avec le métabolisme des médicaments. et on en connaît de célèbres, hein, le jus de pamplemousse dans le traitement par la cyclosporine, par exemple. Il y a aussi des variations physiologiques, et il y a un exemple qui est passionnant, qui a été difficile à mettre en évidence. Je reprends toujours le rémifond avec que j'ai beaucoup travaillé. Quand on étudie une population en pédiatrie et qu'on la compare à une population gériatrique, bon, en France, c'est-à-dire qu'a priori, comme vous le dites, c'est inscrit dans les gènes, donc on devrait avoir le même pourcentage d'acétyl rapide et lent au début de la vie et à la fin de la vie. Eh bien, ça n'est pas le cas.
Alors, observe quel est le pourcentage qui a augmenté ou qui a baissé.
On diminue, par rapport à l'enfance, on diminue les acétyleurs rapides et on augmente les acétyleurs lents. Mais ceci de façon très globale, c'est-à-dire que quand vous mesurez la quantité de métabolites acétylés formés, il y en a moins chez le sujet âgé qu'il n'y en avait en proportion chez le sujet jeune.
Ça veut dire qu'on est, avec l'âge, on est de moins en moins réactif aux médicaments ?
Alors, en fait, on conserve l'activité du génome, on conserve toujours la même capacité enzymatique de la cellule hépatique. Simplement, au cours du vieillissement, la masse hépatique diminue, c'est-à-dire qu'on a moins d'hépatocytes, donc on a moins d'enzymes, donc on fabrique moins de métabolites. Et sur un test grossier, qui est un test, si vous voulez, simplement d'orientation thérapeutique, les acétyleurs rapides passe pour des acétyleurs lents uniquement parce que la capacité métabolique du foie est toujours la même, mais quantitativement a diminué. Elle a diminué parce qu'il y a moins d'hépatocytes d'une part et que d'autre part, le débit sanguin hépatique est plus faible, c'est-à-dire que l'apport de médicaments au foie est diminué.
Donc finalement, un traitement moindre ?
Alors, si vous voulez, c'est aussi un des intérêts de la pharmacogénétique, c'est que tout à l'heure nous avons parlé de la variabilité inter-individuel, mais il ne faut pas oublier aussi la variabilité intra-individuelle. Un individu ne réagit pas forcément de la même façon à toutes les périodes de sa vie.
Alors, nous allons pouvoir peut-être maintenant parler plus en détail des maladies et des médicaments qui sont concernés par la pharmacogénétique. Mmh. Puisque cette pharmacogénétique a débuté à la fin des années 50, peut-être qu'il existe déjà des traitements de ce type. Qu'est-ce qui existe sur le marché, Jean-Pierre Goulet ?
Il serait peut-être judicieux dans un premier temps, si vous le voulez bien, de rappeler comment les médicaments sont transformés dans l'organisme avant d'aborder le problème des applications cliniques des traitements médicamenteux. Il faut savoir que donc ils subissent essentiellement des biotransformations, ces médicaments, dans l'organisme, grâce à de nombreuses enzymes. Et parmi ces enzymes, on a ce qu'on appelle les monoxygénases à cytochrome P450. C'est un peu compliqué.
C'est un peu barbare.
Mais ces enzymes jouent un rôle majeur de biotransformation des xénobiotiques. C'est-à-dire les xénobiotiques sont des substances étrangères à l'organisme. Donc ça s'appelle des monooxygénases et cytochrome P450. Nous allons, pour des raisons de facilité, les appeler les CYP, si vous le voulez bien. Donc ces cytochromes, sous forme d'abréviation, sous forme de CYP, sont des superfamilles de 57 gènes codant des enzymes qui vont métaboliser un grand nombre de médicaments. Plus de 90% du métabolisme des médicaments passe par l'activité de ces fameuses CYP.
Donc, très important.
C'est très important. Et donc, ces CYP se rencontrent au niveau du foie, au niveau des cellules hépatiques, des hépatocytes, en particulier au niveau des microsomes des hépatocytes. Donc, c'est un peu l'usine, en quelque sorte, de l'organisme. Le foie, on peut dire que c'est une véritable usine à transformer, à biotransformer les substances étrangères, les xénobiotiques, et donc les médicaments. Et donc, les CYP vont permettre un très grand nombre de réactions. Ça, c'est bien important à souligner, dont la plus importante est l'hydroxylation. Alors, pourquoi l'hydroxylation ? C'est une réaction qui consiste à greffer un groupement OH, on appelle une hydroxylation, et qui va rendre le médicament hydrosoluble. À partir de cette notion d'hydrosolubilité, il va pouvoir être plus facilement conjugué à un conjugué pour être éliminé ensuite dans les urines. Donc, ces opérations sont extrêmement importantes. Il faut savoir que les CYP sont constituées par des enchaînements d'acides aminés qui sont environ 500, acides aminés. Donc, on a séquencé chez l'homme 57 CYP différents qui sont localisés dans ces hépatocytes.
Et trois peut-être qui sont plus importants, non ?
Oui,
qu'on connaît peut-être mieux que d'autres.
On va y revenir. La nomenclature consiste à nommer un gène par le symbole CYP, donc correspondant à cette terminologie barbare de cytochrome P450. Ensuite, on dénombre la famille par 1, 2, 3, etc. Donc, on va jusque 57. Et ces 57 familles, en fait, il y en a 3 qui sont plus importantes que les autres, qui sont les familles 1, 2 et 3, où effectivement, ces cytochromes, ces CYP450, assurent donc la métabolisation des médicaments. Ensuite, après ces familles, on distingue, la terminologie est un peu compliquée, on distingue des sous-familles qui portent des lettres alphabétiques en majuscules, A, B, C, D, E, etc. Et ensuite, cette majuscule qui désigne la sous-famille est suivie d'un chiffre arabe qui désigne chaque gène correspondant. Donc, on aura ainsi, par exemple, dans le foie, le CYP3A4. C'est un peu compliqué, c'est un peu barbare, mais dans le foie, on trouve différentes proportions de ces fameux cytochromes P450, ces CYP. Donc le CYP3A4, il y en a entre 20 et 50% dans le foie, alors que le CYP2C8 et 9, 10 à 30%. Donc ça, c'est pour les deux plus fréquents. Alors bien sûr, il y en a d'autres, on va y revenir, mais ils représentent plus de 90% des enzymes impliquées dans le métabolisme des médicaments. Donc c'est extrêmement important.
Mais alors, 57 CYP hein, qui ont été identifiés, ouais. Il y en a encore certainement beaucoup à découvrir.
Vraisemblablement, il y en a encore beaucoup à découvrir. Et aujourd'hui, 15 sont impliqués dans le métabolisme des xénobiotiques, comme je vous l'ai dit, et 3 plus particulièrement dans celui des médicaments.
Et donc, en fonction quel CYP nous appartenons.
Alors, on va y revenir assez rapidement, mais on va détailler un petit peu, si vous voulez bien. Donc, on distingue la famille des CYP 3. Donc, qui comporte une seule sous-famille, les CYP3A, avec 4 gènes, mais le CYP3A4 est l'isoenzyme la plus abondante. Elle ne présente pas de polymorphisme, celle-ci. Et ce CYP3A4 joue un rôle fondamental puisqu'il va métaboliser plus 50% des médicaments. Donc, c'est extrêmement important. Ce fameux CYP3A4 donc, joue un rôle important dans la métabolisation de plus de 50% des médicaments actuellement sur le marché. Donc, cela comporte des antibiotiques, des anesthésiques, des antihistaminiques, des corticoïdes, des statines, des substances qu'on utilise pour les traitements hypolipémiants, des inhibiteurs de la protéase, du VIH par exemple.
Et
donc,
ce CYP3A4,
un grand nombre de médicaments.
Et ce CYP3A4, par exemple, tout le monde l'a à la base ou justement il y a des personnes qui n'ont pas ?
Tout le monde l'a à la base, ce CYP3A4. Alors ensuite, on distingue la famille des CYP1. C'est pas très logique, mais c'est parce que on va voir qu'ensuite, il y a effectivement des familles qui posent plus de problèmes ou pour lesquelles on rencontre un polymorphisme, c'est-à-dire une variabilité. Avec les CYP de la famille 1, les CYP 1, quelques médicaments subissent des métabolismes par l'intermédiaire de ces CYP. Ensuite, on trouve la famille des CYP 2. C'est la plus grande famille des CYP chez l'homme, avec deux sous-familles principales. La sous-famille CYP2C, qui est très importante puisqu'elle représente ou elle assure les biotransformations d'environ 25% des médicaments qui sont utilisés en clinique. Donc, on a vu tout à l'heure 50%. Là, on a à nouveau un chiffre important qui est 25%, avec 4 gènes et le CYP2C9, qui est l'isoenzyme la plus abondante et pour laquelle il existe un certain polymorphisme. Alors, parmi les médicaments qui subissent des biotransformations par l'intermédiaire de ces CYP, on trouve encore des statines, des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des antidépresseurs. Mais on trouve également, et c'est ça qui est important, parce que c'est ces médicaments-là qui posent le plus de problèmes, comme l'a dit Jean-Paul Tillman tout à l'heure, des médicaments à index thérapeutique étroit, c'est-à-dire on a une faible marge entre la dose thérapeutique efficace et la dose toxique, en quelque sorte. Et donc, en cas de polymorphisme, évidemment, ça pose problème. Et c'est le cas de certains traitements anticoagulants, comme des traitements par la warfarine, ou des traitements anticonvulsivants, comme disant l'épilepsie, comme la phénytoïne. Et pour terminer cette sous-famille de la famille des CYP2, on a la sous-famille CYP2D, pour laquelle le CYP2D6 est le seul gène actif chez l'homme. Et certains polymorphismes sont associés à une déficience du métabolisme des médicaments. À l'inverse, des formes avec plusieurs copies du gène, et ça a été évoqué par Jean-Paul Tillman tout à l'heure, sont associées à un métabolisme très rapide des médicaments qui va être éliminé très très vite. Dans ces familles de médicaments qui subissent des biotransformations sous l'intermédiaire des CYP2, 2D plutôt, on a des analgésiques, des antiarythmiques, des antidépresseurs et des antihistaminiques.
Alors,
voilà très rapidement brosser le tableau de cette immense famille des cytochromes P450, un nom fort barbare, il est vrai, mais qu'on résume sous forme de CYP1, CYP2, avec CYP3 et des sous-familles.
Là, malheureusement, vous avez résumé en très très peu de temps toutes ces sous-parties. Vous avez parlé de médicaments, on va en reparler tout de suite après dans notre deuxième partie d'émission. Auparavant, je propose de marquer une courte pause, Jean-Pierre Goulet, et on se retrouve donc avec votre confrère et collègue Jean-Paul Tillemain. Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Jean-Paul Tillemain et de Jean-Pierre Goulet, tous les deux membres de l'Académie de pharmacie, membres de l'Académie nationale de médecine ou membres correspondants de l'Académie nationale de médecine pour Jean-Pierre Goulet. Avec vous, donc, nous parlons de pharmacogénétique. Nous essayons un petit peu de comprendre ce que recouvre la pharmacogénétique. Et dans cette seconde partie, nous allons pouvoir parler des applications de cette pharmacogénétique, mais avant, auparavant, parler des causes génétique. Et pour cela, je laisse la parole à Jean-Paul Tillemain. Qu'est-ce qu'on appelle déjà cause génétique ?
Alors, un médicament, c'est avant tout un effet. Un effet pharmacologique, c'est-à-dire que ce médicament se fixe sur des surfaces sensibles qu'on appelle des récepteurs. Première cause de polymorphisme génétique, les récepteurs, soit leur nombre, soit la réactivité de ces récepteurs. Et nous appelons ces causes des causes pharmacodynamiques, puisque ça touche à l'effet du médicament. D'autre part, ces effets sont le plus souvent dose-dépendants. Ça veut dire que leur intensité est d'autant plus grande que la dose administrée et la concentration au niveau du récepteur est plus élevée. Deuxième type de cause, des causes pharmacocinétiques qui vont moduler, qui vont modifier la concentration du médicament au niveau de ces récepteurs. Donc, causes pharmacodynamiques, cause pharmacocinétique. Le polymorphisme peut être uniquement pharmacodynamique, nous pouvons le voir par exemple dans certains cancers, peut être parfaitement, uniquement plutôt pharmacocinétique, et le plus souvent, il est mixte, pharmacodynamique, pharmacocinétique. Et comme tout à l'heure, nous parlions des antivitamines K, des anticoagulants, je voudrais essayer d'illustrer ce propos avec les anticoagulants.
Bien sûr, si vous avez un exemple, nous écoutons.
Alors, les anticoagulants les plus utilisés, c'est l'acénocoumarol, c'est-à-dire le Sintron. Et ce produit, qui est un produit très efficace, se caractérise bien évidemment par un mauvais index thérapeutique. Et on comprend très bien qu'un anticoagulant à dose trop élevée va donner des hémorragies. D'où la nécessité d'avoir une adaptation individuelle de posologie extrêmement précise, mais aussi pour le patient, la nécessité absolue de bien respecter le traitement, le rythme des administrations, de ne pas oublier de prendre son médicament et de ne pas en prendre plus que nécessaire, même si on a oublié avant.
Un aspect sur lequel vous insistiez en préparant cette émission.
Oui, parce que je crois que c'est très très important pour ce genre de produit de suivre scrupuleusement les posologies, posologies voulant dire dose, rythme et voie d'administration. Alors, pour ces anticoagulants, pour ces antivitamines K, premier type de polymorphisme, c'est le polymorphisme pharmacocinétique, et qui va toucher donc la vitesse de dégradation du produit par le foie. Et on comprend très très bien que si cette vitesse est lente, eh bien le produit va avoir tendance non pas à s'accumuler, mais à avoir des concentrations plus importantes dans l'organisme. Si au contraire la vitesse est trop rapide, eh bien il va falloir répéter les administrations plus rapidement. Donc vous voyez, premier type de polymorphisme qui va affecter la concentration de l'anticoagulant au niveau de ses récepteurs. Bon, on connaît bien maintenant ce polymorphisme, et vous voyez qu'on peut tenter de l'appréhender, si on n'a pas fait la carte du génome, on peut quand même l'appréhender par les concentrations de médicaments dans le sang, c'est-à-dire au niveau des récepteurs. Deuxième type de polymorphisme, c'est le polymorphisme pharmacodynamique. Pourquoi ? Parce que ces anticoagulants sont des facteurs donc qui bloquent la synthèse des facteurs de coagulation vitamine K dépendants. Donc, l'effet dépend de la concentration de la vitamine K dans l'organisme. Apport alimentaire, c'est une vitamine, donc apport alimentaire, mais on suppose que l'apport alimentaire est correct. Ce qui va pouvoir varier, c'est la façon dont le foie, l'enzyme qui, au niveau du foie, va activer cette vitamine K, donc augmenter sa concentration, donc limiter l'effet de l'anticoagulant. Alors, cette enzyme a un nom un petit peu barbare, c'est la vitamine K hypoxydréductase. Bon, c'est pas méchant.
Et vous prononcez sans faire d'accro.
Oui, parce que, bon, si vous voulez, c'est une notion tout à fait classique, mais il y a aussi un polymorphisme de cette enzyme. Et on comprend bien que la réactivité de l'organisme pour la même concentration d'anticoagulants peut être modifiée si, par exemple, cette enzyme est déficitaire ou vraiment à très faible concentration, eh bien l'anticoagulant à concentration égale va agir beaucoup plus. Si en revanche cette enzyme a une activité très élevée, c'est-à-dire s'il fabrique en quelque sorte l'antagoniste de l'anticoagulant, eh bien toujours à la même concentration, on aura un effet anticoagulant moindre. Donc vous voyez deux types de polymorphisme génétique. Il faut toujours, quand on parle de médicaments, penser d'abord à l'effet. Les récepteurs peuvent être sujets à polymorphisme, et d'autre part, le métabolisme, la vitesse de dégradation ou d'activation d'ailleurs du médicament, peut être aussi sujette à polymorphisme.
Alors, avec cet exemple, ce que vous essayez de nous dire, c'est que, par exemple, pour la prise d'anticoagulants, il serait bien d'établir sa carte génétique, par exemple, pour avoir son traitement à la carte.
Alors, oui.
Jean-Paul Tillemont.
Oui, si vous voulez, je crois que de toute façon, on va vers une personnalisation de la thérapeutique médicamenteuse et que je pense que le progrès dans le domaine sera de trouver, en fonction des caractéristiques génétiques de l'individu, d'une part le meilleur médicament et d'autre part la meilleure dose. Alors, dans le cas des antivitamines K, si vous voulez, il n'est pas possible à l'heure actuelle d'envisager d'étudier les caractéristiques génétiques de tous les patients sous antivitamine K, bien que ce soit souhaitable. Alors, je m'explique. Il y a deux cas de figure. Quand on donne des antivitamines K en relais d'un traitement par l'héparine, c'est-à-dire que quand on a déjà donné donc un anticoagulant et qu'on donne l'antivitamine K, on donne l'antivitamine K en fonction de l'effet qu'il va produire sur les tests de coagulation. C'est-à-dire que finalement, sans les mesurer, on prend en compte toutes ces caractéristiques génétiques. Là, je pense que faire un phénotypage n'est pas forcément nécessaire. En revanche, quand on met un individu directement sous une antivitamine K, oui, je pense que ce sera intéressant de le faire. Bon, pour l'instant, il y a un certain nombre de tentatives qui sont faites. Le problème n'est pas résolu, il est assez difficile, mais je pense qu'on devrait pouvoir y arriver.
Alors, nous allons pouvoir parler des applications, même si on a déjà commencé à en parler, des applications de la pharmacogénétique avec vous, Jean-Pierre Goulet. Les applications, alors, à venir, est-ce qu'on peut déjà le prévoir dans les 10, 15, 20 ans à venir, ou est-ce que ça reste encore à l'état...
Déjà, ce qu'on peut dire en ce qui concerne les applications cliniques, donc de la pharmacogénétique, c'est que les principales indications de mesures en termes de pharmacogénétique concernent des médicaments dont la fenêtre thérapeutique est étroite, parce qu'on a une faible marge entre la dose thérapeutique efficace et la dose toxique. Eh bien, parmi ces médicaments, on a les anticancéreux. C'est extrêmement important pour optimiser et ajuster donc ce traitement médicamenteux, puisqu'on va rechercher une efficacité maximale avec une toxicité minimale. Donc, c'est extrêmement important. Et effectivement, pour ces médicaments-là, il y a une véritable indication à réaliser ces tests d'ores et déjà, qui sont réalisés dans un certain nombre de centres aujourd'hui, même si ce n'est pas de la pratique courante quotidienne, qui sont déjà réalisés dans un certain nombre de cas.
Alors, vous parlez d'anticancéreux, ce sont pour le cancer du sein, cancer du côlon?
Oui, c'est pour différentes catégories de cancers d'une manière générale.
D'accord, il n'y a pas un cancer plus particulier?
Non. Il y a également tous les médicaments dont la réponse est difficile à évaluer rapidement. C'est le cas des immunosuppresseurs, les médicaments qui sont utilisés pour traiter et éviter le rejet des greffes. En cas de greffe, effectivement, on utilise des immunosuppresseurs ou bien les psychotropes. Donc ces médicaments sont difficiles, la réponse est difficile à évaluer rapidement. On sait pour les psychotropes que l'effet thérapeutique n'est observé que d'environ 30 à 70% selon les médicaments et selon les études.
Est-ce qu'en préparant cette émission, justement parmi les médicaments que l'on citait hein, pour dans ma préparation d'émission, les médicaments que je pouvais lire hein, sur les documents internet notamment, effectivement on parlait en premier lieu des psychotropes et notamment des effets inverses en prenant un psychotrope d'avoir accentué cet effet de dépression.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors effectivement, aujourd'hui, les psychotropes ne constituent pas un très bon exemple parce qu'on dispose de nombreuses familles et des molécules qui ont des structures différentes et qui donc vont subir des biotransformations qui vont être différentes en fonction de leur nature et de leur structure chimique. Pour les psychotropes, effectivement, ce n'est pas une indication majeure. Autant l'indication est majeure de pouvoir déterminer un profil pharmacogénétique pour un traitement anticancéreux, pour éviter justement une aplasie médulaire, c'est-à-dire d'avoir un traitement thérapeutique mis en place d'emblée qui va entraîner d'emblée le décès du patient. C'est tout à fait exceptionnel. Mais enfin, pour éviter de se trouver confronté à des situations de toxicité grave, au moins, il est judicieux d'effectuer une étude pharmacogénétique. De la même manière, pour les médicaments immunosuppresseurs aussi, d'autant que le problème se complique car on a greffé un organe provenant d'un autre individu. Et là, il y a une interaction aussi au niveau par rapport au patrimoine génétique de l'organe qu'on a greffé, si vous voulez. Donc, les choses se compliquent un peu. Enfin, le dernier point, c'est que les biomarqueurs de la pharmacogénétique sont prédictifs et donc sont utilisables avant l'instauration du traitement. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'évoquait Jean-Paul Tillemant tout à l'heure. C'est qu'avant de mettre en place le traitement, ces études ou ces analyses pharmacogénétiques vont permettre d'avoir une idée prédictive assez précise de la situation dans laquelle on va se trouver confronté, ou même de réaliser un ajustement posologique.
Alors aujourd'hui, quelles sont les applications concrètes de la pharmacogénétique? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont traitées en fonction de leur
Effectivement, dans un certain nombre de centres, puisqu'il y a à l'heure actuelle une quinzaine de laboratoires en France qui développent cette activité, on trouve des laboratoires qui répondent aux préoccupations qui sont majeures en termes de santé publique, à la fois dans le traitement antinéoplasique, donc anticancéreux, et à la fois dans le traitement de rejet des greffes par les immunosuppresseurs. Donc un certain nombre de centres réalisent relativement fréquemment, même si ces examens ne sont pas rentrés dans la routine courante, ces actes de pharmacogénétique. On dénombre à l'heure actuelle environ 15 laboratoires qui développent cette activité en France, comme je le disais. Il y a 5 laboratoires à Paris en région parisienne et 10 laboratoires en province. Pour Paris, il s'agit de l'hôpital européen Georges Pompidou, de l'hôpital Robert Debré, de l'hôpital de la Riboisière, de Créteil et du Kremlin-Bicêtre. En ce qui concerne la province, on a des centres à Angers, à Grenoble, à Lille, Limoges, Lyon, Montpellier, Nancy, Nantes et Tours. Donc la France commence à être relativement bien quadrillée par des services en mesure de réaliser ce type d'examen et d'assurer un suivi et une prise en charge thérapeutique optimale de ces patients qui posent un problème.
Mais comment ça se passe? Il y a une prescription d'un médecin généraliste, d'un spécialiste?
Non, je crois que c'est peut-être plus compliqué dans la mesure où il y a 3 partenaires.
Oui.
Il y a le patient, le médicament, la maladie. Alors, la maladie, bien évidemment, par exemple dans le cancer, on a un certain nombre de modifications d'ordre génétique. Vous savez que, par exemple, dans le traitement du cancer du sein, il y a certains cancers, certaines tumeurs qui sont hormonosensibles, et à ce moment-là, on va donner des antihormones. Il y a, d'autre part, un certain nombre de médicaments qui sont soumis à des enzymes eux-mêmes soumis à un polymorphisme génétique. Si on peut changer de médicament pour prendre un médicament dont la vitesse de dégradation est plus facile à prévoir, on va le faire aussi. Et d'autre part, si vous voulez, les patients, le patient, c'est donc sa carte génétique. Si vous voulez, il faut tenir compte de ces trois paramètres. Alors, pour les médicaments, il est clair que les médicaments qu'on utilise, qui sont concernés par la pharmacogénétique, ce sont des médicaments qui ont un mauvais index thérapeutique. Ça, je crois que c'est tout à fait clair. Et on comprend très bien que la variabilité étant étroite, il faut avoir une dose la plus précise possible. Les maladies qu'on traite à l'heure actuelle, ce sont surtout les maladies graves. Alors, on pense bien sûr au cancer, on pense au sida, on pense à tous les problèmes de coagulation, on pense aussi aux problèmes de dépression, aux antidépresseurs. Ce sont les quatre grandes catégories de médicaments pour lesquels une pharmacogénétique peut être envisagée.
Et qui touche une grande partie de la population.
Oui. Alors, les patients. Les patients, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il faut tenir compte du fait que l'activité métabolique d'un individu peut varier d'un moment à un autre, ce que vous appelez tout à l'heure la variation intra-individuelle. C'est la raison pour laquelle on fait un certain nombre de tests, mais l'idéal, c'est de faire un test avant la première prise du médicament, ce qui vous permet d'avoir le patient à une situation donnée, sachant que cette situation donnée n'est pas forcément la situation antérieure. Par exemple, voyez-vous, pour le Rémifont, le premier jour du traitement de la tuberculose, on peut très bien concevoir qu'on va faire la dextacétylation de ce produit de manière à voir quelle est la meilleure dose à appliquer au patient, c'est-à-dire en gros s'il est acétylateur rapide ou lent.
Je vous propose de marquer une courte pause, Jean-Paul Tinman et Jean-Pierre Goulet, et on se retrouve tout de suite après pour la fin de notre émission où nous parlerons peut-être budget, finances et les recommandations, bien sûr, de l'Académie de pharmacie. À tout de suite.
Très bien.
Canal Académie rend hommage aux grandes figures historiques de l'Institut de France. Jean-François Revel, de l'Académie française, décédé en 2006. Jacques Bainville, également journaliste et également immortel de la française, mais d'une autre génération. Les frères Reynac, grandes figures de la Troisième République, dont l'un d'entre eux, Salomon, était membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. François Arago, scientifique du XIXe siècle, membre de l'Académie des sciences dès l'âge de 23 ans. Charles Trenet et Delacroix, tous deux membres de l'Académie des beaux-arts. Roger Arnaldez, philosophe de la pensée orientale médiévale, ainsi que beaucoup d'autres figures de l'histoire des académies qui, je vous le rappelle, remontent jusqu'au XVIIe siècle.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Jean-Pierre Goulet et de Jean-Paul Tinman, tous les deux pharmacologues, je pense qu'on peut le dire, Jean-Pierre Goulet,
aussi
toxicologue, biologiste. Avec vous, donc, nous parlons et nous terminons notre discussion sur la pharmacogénétique. Alors maintenant, nous avons compris ce que c'était. Nous allons parler d'un sujet qui fâche, qui est bien sûr l'aspect financier, l'aspect finance et du financement par la sécurité sociale éventuellement, tout en sachant qu'en ce moment, nous sommes plutôt dans une période de déremboursement plutôt que de remboursement. Jean-Paul Tinman, c'est vous qui m'en aviez parlé de cet aspect financier. Alors aujourd'hui, quelqu'un qui va dans un laboratoire pour en savoir plus sur sa carte génétique et avoir un médicament en conséquence, comment ça se passe et comment ça pourrait se passer dans les années à venir si on voit les choses de manière positive?
Alors, j'espère vous avoir convaincu que une analyse pharmacogénétique était très importante et que donc elle doit entrer dans la pratique pharmacologique, dans la pratique thérapeutique. Donc elle aura un coût et je pense que ce coût doit être pris en compte par la société. Maintenant, il est clair aussi qu'il faut définir un cadre précis où ce genre d'études s'applique. Et je crois que aujourd'hui, nous n'en sommes que qu'au balbutiement, je veux dire que c'est la pharmacogénétique est une discipline nouvelle et nous n'avons pas encore toute l'information nécessaire, c'est-à-dire que nous connaissons un certain nombre de médicaments pour lesquels il faut faire de la pharmacogénétique, mais je suis bien persuadé qu'il y en a d'autres. Par conséquent, il y a une première chose qu'il faut faire absolument, une première décision à prendre, c'est de sensibiliser tous les corps de santé au problème de la pharmacogénétique, sachant que ça peut expliquer des anomalies qu'ils observent, par conséquent, d'une part former personnel de santé, et d'autre part, ce qui est très difficile, mais l'inciter fortement à signaler tous les cas de variations imprévues de réactivité aux médicaments.
C'est ce que l'on voit par exemple de notre notice de médicament lorsque l'on voit les effets indésirables.
Voilà. Alors, pour les effets indésirables, il y a déjà une structure qui est tout à fait en place et qui marche bien, qui est la structure des centres régionaux de pharmacovigilance. Mais je pense qu'il faut, là encore, qu'on stimule les praticiens à bien déclarer leur cas de pharmacovigilance, bien sûr, aux autorités pour qu'on en fasse une analyse précise et qu'éventuellement on mette en évidence des polymorphismes génétiques qui restent à découvrir. Bon, il est clair aussi qu'il faut prévenir les industriels. En règle générale, les industriels connaissent bien ce problème et avant de mettre un médicament sur le marché, d'ailleurs c'est quasi obligatoire, on sait par quel cytochrome P450 le médicament nouveau est métabolisé, donc on sait quelles sont les populations sans risque et les populations à risque. Alors il faut, et puis bien évidemment, il faut prévenir le praticien et le patient. Je crois que le patient, il faut le prévenir, mais vous voyez, je pense qu'il faut une démarche commune. Il faut une démarche commune de sensibilisation et surtout qui rapporte les effets indésirables ou les effets imprévus des médicaments, en sachant que le risque toxique, bien sûr, c'est le plus visible, mais le risque d'inefficacité est aussi très très important. Par conséquent, un produit dont on est sûr de l'activité, un anticancéreux dont on est sûr de l'activité, qui est à dose efficace, il faut qu'on puisse savoir pourquoi il ne marche pas.
Alors vous, Jean-Pierre Goulet, qui exercez au Havre pour le coup, vous faites partie de ces médecins qui mettent en application ces principes de pharmacogénétique, puisque votre confrère parle de sensibiliser les médecins et les industries pharmaceutiques.
Oui, c'est vrai qu'il convient de sensibiliser l'ensemble des acteurs à ces examens, mais il faut rappeler aussi que pour l'instant, ils ne sont pas rentrés dans la pratique courante parce que on a encore besoin d'évaluer un certain nombre d'indications dans la prise en charge de tels examens. Ça passe déjà par une reconnaissance de cette activité aussi par les pouvoirs publics, puisque comme le disait Jean-Paul Tillemann, effectivement, ces médicaments ne sont pas remboursés à l'heure actuelle et ça limite considérablement le développement en pratique courante des tests. Il nous semble souhaitable de mettre en place un réseau national pour développer et renforcer cette activité de pharmacogénétique, à l'instar de ce qui existe pour la génétique moléculaire, parce que vous savez que pour la génétique moléculaire, il y a effectivement un réseau national qui a été mis en place, et il conviendrait de mettre en place un réseau national comparable à celui qui existe pour la génétique moléculaire pour la pharmacogénétique. Il faut également développer les études de pharmacogénétique avant le développement et la commercialisation de nouveaux médicaments. Et puis, enfin, il faut mener des études de prospective de validation, donc pour identifier tous les cas dans lesquels l'application clinique va être utile aux patients. Donc tout ça forme en quelque sorte un tout. À partir de là et de la reconnaissance par les pouvoirs publics, on peut imaginer qu'assez rapidement, il y a un intérêt majeur de santé publique à ce que ces examens soient remboursés, parce que je suis convaincu, même si c'est un coût, comme vous le dites, à une époque où on dérembourse plutôt que rembourser davantage, eh bien je pense que la collectivité serait gagnante parce qu'on fera un certain nombre d'économies en termes de santé publique par ailleurs.
Et notamment diminuer le nombre de morbidités, on va dire.
Et d'accidents.
Et d'accidents,
bien entendu.
Alors, que dire sur donc les recommandations de l'Académie de pharmacie, puisque finalement, je pense que ces recommandations de l'Académie de pharmacie, c'est ce que vous avez dit en partie. Est-ce qu'il y a d'autres éléments peut-être à citer parmi les recommandations?
Les deux académies...
Académie nationale de médecine
et l'Académie nationale de pharmacie aussi. Les deux ont des recommandations qui sont tout à fait semblables. Je crois que, si vous voulez, puisque l'on parle de coût, je pense qu'on diminuera le coût des hospitalisations pour des effets indésirables, pour des effets toxiques de médicaments, qu'on peut les diminuer de façon sensible, pas complètement bien évidemment, parce qu'il y a d'autres causes que les causes génétiques, mais par une étude génétique appropriée. Par conséquent, si on doit faire une étude de rentabilité, entre guillemets, il faut voir bien sûr ce qu'on va dépenser, mais il faut voir aussi ce qu'on va économiser de l'autre côté. Donc là, si vous voulez, il y a toute une étude que, bon, c'est pas à nous de la faire parce que on n'en a pas les outils, mais je pense que le bénéfice à terme est évident au plan économique. Alors maintenant, que doit faire la médecine, si ce n'est essayer de progresser au maximum et souhaiter traiter les gens le mieux possible? Bon, il est certain que la prise en compte des paramètres pharmacogénétiques est un progrès considérable et doit aller vers le progrès de la thérapeutique et de nous permettre de beaucoup mieux soigner les gens.
La dernière question que je vais vous poser, sur le plan éthique, si on se place sur le plan de la science-fiction, on peut imaginer que sur notre carte vitale, parmi les informations dont on disposera, il y aura peut-être également notre carte génétique qui permettrait aux médecins justement de tabler sur un médicament approprié à la carte en fonction de notre patrimoine. Est-ce que ça serait possible? Et oui, est-ce que ça serait inquiétant ou pas sur un plan éthique, en tout cas, puisqu'à chaque fois qu'on parle...
C'est pas forcément inquiétant. Écoutez, chacun a sur sa carte son groupe et son rhésus. Je pense que c'est pas quelque chose qui est inquiétant, au contraire.
Ça pourrait faire partie des choses, ça pourrait venir quand
même.
Ça
protège la santé individuelle de chacun, donc je pense qu'au contraire, ça ne pourrait constituer qu'un progrès. Et ça impose déjà en préalable, comme l'a dit Jean-Paul Tillemans, qu'il y ait une reconnaissance de cette activité au plus haut niveau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est ce que l'on souhaite. Est-ce que c'est ce que les vœux qu'ont formé les deux académies, que ce soit l'Académie de médecine ou l'Académie de pharmacie, c'est que cette activité soit reconnue et qu'elle soit structurée et qu'on donne les moyens aux laboratoires qui exercent dans ce domaine d'activité pour accomplir leur tâche.
Mais donc, ça serait souhaitable.
Pour plus grand bénéfice de la santé publique.
Ah, moi, je suis persuadé qu'on aura un jour une carte métabolique, une carte pharmacogénétique, comme on a aujourd'hui sa carte de groupe sanguin.
Donc on n'est pas dans la science-fiction.
Non, pas du tout. La seule chose, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a une traduction phénotypique du génotype. Je veux dire par là que le gène va produire un certain nombre d'enzymes, mais que ces enzymes, d'abord, ne sont pas uniquement dévolues aux médicaments, mais donc ils sont modulables par beaucoup de facteurs environnementaux. Et d'une part, ce qui veut dire qu'il faut, à un instant donné, il faut pouvoir tester en quelque sorte la réactivité du sujet aux médicaments. Et je crois que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la première dose de médicament qui est donnée de manière à voir quelle concentration on obtient et d'autre part quel effet on peut obtenir, est une excellente chose. Autrement dit, je crois qu'il faut développer maintenant des tests prédictifs. Je crois que le grand message de la pharmacogénétique, c'est de prévoir. Et à partir du moment où on a prévu, on peut choisir le meilleur médicament et la meilleure dose.
Et c'est ce que vous disiez au début de cette émission. Alors ainsi, la boucle est bouclée. Et je pense que nous avons fait un tour général rapide, certes, de la pharmacogénétique, mais un tour quand même. Je vous remercie de nous avoir rendu visite ici au Palais de l'Institut. Je rappelle que Jean-Paul Tillemans, donc, vous êtes professeur émérite de pharmacologie à la Faculté de médecine de Créteil, membre de l'Académie de pharmacie et de l'Académie nationale de médecine. Et puis vous, Jean-Pierre Goulet, vous êtes donc toujours praticien hospitalier depuis l'heure que nous avons passée en votre compagnie, toujours praticien hospitalier au laboratoire de pharmacocinétique, de toxicologie et de biologie au Havre. Merci tous les deux de nous avoir rendu visite et puis je l'espère à bientôt pour une nouvelle émission.
Merci.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci.
Thank you.